Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, voici les principaux titres de ce journal vespéral sur Radio Kapi. Le gouvernement congolais apporte une assistance de 500 000 dollars américains aux victimes des atrocités de Kamuina Sampou au Kasaï central. La police nationale congolaise annonce l'implantation de ses escadrons dans tous les villages qui ont connu des atrocités dans les grands Bandundu, notamment dans la région de Kouamout, afin de faciliter la mission de pacification entre les communautés en conflit. Comme invité du journal, nous recevrons Kalombola Kapuli Floribert, le coordonnateur provincial de la médecine traditionnelle et plantes médicinales au Maniema. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au Kasaï central pour commencer, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutwishai, annonce une assistance de plus de 500 000 dollars américains pour les victimes des atrocités de Kamuina Sampou. Modeste Mutinga l'a dit à Kananga hier vendredi où il séjourne pour évaluer le nombre de personnes qui avaient été touchées par ces événements entre 2016 et 2017. Ces fonds sont déjà mobilisés, a-t-il assuré. On écoute Modeste Mutinga au micro de la presse locale dans cet extrait choisi par Piero Elamenji.
Il y a plus de 4 ans, il y a eu des atrocités énormes dans la province du Kasaï occidental. Il y a eu des morts, des milliers de déplacés. Ils sont partis de Kamuina Sampou à Dibaya. Parce que vous vous rappelez qu'il y a eu des experts de l'ONU qui ont trouvé la mort dans ce phénomène. Et les jugements ont été rendus, il y a eu des condamnations à mort, il y a eu autant. Mais jamais on ne s'est occupé des victimes de ce phénomène politico-sécuritaire, comme vous le savez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été interpellé sur cette question importante. Ainsi, nous avons été délégués pour faire l'état des lieux de la question et le Premier ministre de son côté a décidé qu'une assistance rapide soit organisée pour venir en aide à cette population. Cette assistance est déjà disponible. Nous sommes venus nous rendre compte de l'état des lieux sur place pour que cette assistance puisse parvenir à ces nombreuses victimes.
Notons que Modeste Mutinga, qui est par ailleurs président du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, un parti politique membre de l'Union sacrée, a profité de ses séjours pour sensibiliser la population à se faire enrôler massivement. Problématique du développement de la province du Kasaï central et particulièrement le dossier de l'électrification de cette province à travers le projet Chute Katende. Une délégation de la jeunesse de cette province regroupée au sein de la structure alternative des jeunes pour le changement séjourne à Kinshasa a fait de mener des plaidoyers auprès des autorités sur cette question. Dans une interview à Radio Kapi, ces jeunes appellent le chef de l'État à concrétiser sa promesse de doter la province du Kasaï central de la centrale hydroélectrique de Katende pour son électrification. L'un d'eux, Poncier Divin Misenga, est au micro de Piero Elamenji.
Et nous allons organiser un forum avec les autorités, l'élite kassaïenne et les jeunes qui se retrouvent ici, qui vivent ici à Kinshasa, pour discuter ensemble sur le Kasaï central que nous voulons former. Parce que plusieurs décennies, chez nous, ça n'avance pas. La misère a un visage humain.
Et quelle est la particularité par rapport au projet Chute Katende?
Nous sommes dans cette phase-là de plaidoyer parce qu'après une année que le président nous avait reçu, ça ne marche pas. Les lignes n'ont pas toujours bougé. Et nous nous posons la question, qu'est-ce qui bloque? Les matériels ne sont pas ramenés. Qu'un signal n'a été d'une manière positive lancé pour montrer que le gouvernement a été mobilisé pour faire exécuter les promesses du chef de l'État. Voilà pourquoi nous sommes venus pour rencontrer le Premier ministre, rencontrer d'autres autorités et les ministres sectoriels qui traitent sur cette affaire pour nous dire concrètement ce qui bloque le projet Katende. Et là, nous allons ramener les messages à notre population qui, jusqu'à maintenant, elle s'est plainte et n'a pas la vraie information sur le blocage de ce projet sauveur, un projet espoir pour tout un espace au centre du pays.
Et puis, progression des têtes d'érosion dans la ville-province de Kinshasa, le quartier Ngomba, Kikusa, Bois du Massissi, dans la commune d'Engalima, un quartier périurbain qui risque de disparaître de la carte de la ville-province de Kinshasa si rien n'est fait par le gouvernement congolais. Cette alerte est de Obed Kambale, président de la fondation qui porte son nom. Pour faire face à cette situation, Obed Kambale, accompagné des membres de sa fondation, est descendu ce samedi sur terrain, muni de gros sacs et bambous pour lancer la lutte contre ces têtes d'érosion, et ce, en attendant l'arrivée du gouvernement qui a oublié ses coins. On l'écoute.
Ce quartier connaît plus de 7 érosions, des érosions qui menacent sérieusement le quartier. Alors, comme l'État tarde de venir ici, on a dit non, on va se prendre en charge. Nous mobilisons la population à travers notre fondation, la fondation qui porte notre nom, pour que la population puisse se prendre en charge. Parce que si rien n'est fait, en attendant le gouvernement qui tarde toujours de venir, comme je le disais, le quartier compte plus de 30 000 habitants. Et ces habitants risquent de se retrouver tous des locataires éparpillés à travers d'autres communes de Kinshasa. C'est pourquoi la fondation a acheté des gros sacs, des petits sacs, même des bambous, pour tenter tant soit peu d'atténuer ces érosions. Mais les dégâts sont tellement énormes, ça demande l'intervention du gouvernement congolais. Et j'en profite de votre micro pour appeler le gouvernement congolais à travers le ministère des infrastructures et travaux publics, et même celui du développement rural qui s'occupe des milieux périurbains, même le gouverneur de Kinshasa, de venir rapidement ici à Boadi, parce que si rien n'est fait, Boadi va disparaître sur la carte, et donc tout le monde doit se mobiliser, et même les ONG de venir en aide à cette population qui ne sait à quoi ça sert.
Cette initiative a été saluée par les habitants du quartier qui ont également bénéficié des machines tronçonneuses pour évacuer la route qui était bloquée par les palmiers renversés par les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale. On écoute l'un d'eux.
On essaie de se battre avec des petits sacs, avec des bêches, tout ça. Vous vous battez aujourd'hui, demain il y a une forte pluie, ça c'est pour. Vous vous battez aujourd'hui, il y a une forte pluie, ça c'est pour. On ne peut que lancer un message auprès du gouvernement central et beaucoup plus auprès de son excellence, de son gouverneur de la ville Jean-Claude, de pouvoir venir nous assister. Nous qui sommes là, on a cette bonne volonté de travailler, on a cette bonne volonté là de rendre notre quartier meilleur, habitable et louable, comme je pourrais dire. Mais nos moyens sont tellement limités. Mais grâce à l'initiative lancée par notre cher frère du quartier, M. Kamba Léobed, et grâce à l'appui de son LGD, qui s'intitule la Fondation Robert Kamal, il essaie de réunir des petits moyens, jeter des sacs, motiver des jeunes gens, se rendre sur le terrain lui-même au four et au moulin pour qu'il y ait de l'air respirable. Parce qu'avec tout ce qu'on a ici, on ne sait pas respirer, on ne sait pas dormir dans la quiétude, on ne sait pas vaquer comme il se doit dans nos mouvements. Parce qu'on a peur. Vous pouvez sortir ici, il y a une faute pour y rentrer, vous ne savez même plus comment atteindre la maison parce que toutes les routes sont bloquées.
Un dossier réalisé par Pierre Elamengi. Parlons à présent de l'insécurité dans l'espace Grand Bandundu, précisément dans les territoires de Kwamout au Maindombe, de Bagata au Kwilu et du secteur de Bukangalonzo au Kwango. Les services de sécurité annoncent le retour progressif de la paix dans les villages touchés. Des escadrons de la police sont en train d'être implantés dans tous les villages qui ont connu des atrocités pour faciliter la mission de pacification entre les communautés en conflit. C'est ce qu'a déclaré le commissaire général adjoint en charge de la police administrative, le général Philemon Mouchidiav, qui séjourne depuis jeudi à Massiambio, sur la route nationale numéro 17, où va débuter sa mission qui consiste à faire le suivi d'implantation de ces escadrons. On l'écoute au micro de Irène Mboma.
Je suis venu suivre de près l'implantation des escadrons de la police dans les grands Bandundu, à Kwamout et dans le secteur de Machambio. Dans la province de Kwilu, nous parlons du territoire de Bagata. Dans le Kwango, nous sommes à Bukangalonzo. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour faciliter la mission de pacification entre les Yaka et les Teke. Ces deux frères congolais doivent se parler. Ces deux frères congolais doivent enterrer la hache de guerre. Voilà pourquoi la police a implanté ces escadrons de la police dans les provinces que je viens de vous énumérer. Je m'adresse à toute la population de Machambio, de Kwamout, de Bagata dans les Kwilu, pourquoi pas de Bukangalonzo dans les Kwango. D'ailleurs, cette fois-ci, il y a eu extension de conflits, même dans la province de Kinshasa. Lorsqu'on parle de Doumi, on parle de Mbakana, c'est toujours les Yaka et les Teke qui s'affrontent. Je leur demande la paix, je leur demande d'enterrer la hache de guerre, puisque nous sommes tous Congolais.
Nord Kivu, le conflit foncier opposant les habitants de la localité de Vukeno dans la chefferie de Bassoa et ceux de la localité de Vukununu dans la chefferie de Batangi est loin d'être résolu. Ces deux localités se disputent les villages de Mutuambi situés dans les territoires de Lubero. Le réseau pour les droits de l'homme, REDO, qui alerte à travers un communiqué publié jeudi dernier, appelle les autorités à tous les niveaux à se pencher sur ces problèmes pour que la paix y règne. Guylaine Kassassia.
Dans un communiqué de presse rendu public le 5 janvier dernier, le réseau pour les droits de l'homme REDO revient sur les incidents causés par ces conflits et tire sa genèse sur l'assassinat des deux personnes ressortissantes de Bukeno à Mutambi en janvier 2021. Les dossiers traînent encore à la justice militaire de Butembo. En novembre 2022, 14 personnes ont été poignardées à Vurangwa par des lances et des couteaux par les gens qui seraient venus de Vukununu. Les derniers incidents en date est celui vécu le 3 et le 4 du mois en cours, où plusieurs maisons appartenant aux ressortissants de Vukeno avaient été incendiées et d'autres démolies à Vurangwa par les mêmes personnes. Les REDO qui s'inquiètent du silence des autorités face à ce problème qui date de plus d'environ 3 ans déjà, appellent les autorités, chacune à son niveau, de s'impliquer le plus vite possible dans ces dossiers pour que la paix règne dans cette partie du territoire. Contacté, l'administrateur militaire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, rassure qu'il va échanger vendredi 13 janvier prochain avec les chefs de ces deux chefs en conflit en vue d'examiner cette question. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Faire échec aux tentatives de balkanisation de notre pays avec la sous-traitance du M23 par le Rwanda et de ce fait préserver l'unité nationale par la légitimité des institutions de notre pays, l'Union des démocrates mobutistes UDEMO lance un appel pathétique à l'ensemble de la population congolaise à participer massivement à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours. Dans un communiqué rendu public hier vendredi, dont une copie est parvenue à Radio Okapi, le sénateur Mobutu Gyala exhorte les Congolais de tous les horizons dans le pays et aussi ceux de la diaspora à ne pas négliger cette étape cruciale et très importante pour la suite du processus électoral en cette année 2023. Autre nouvelle, en Ituri, la production des poissons a sensiblement baissé sur le lac Albert à Chomia, dans le territoire de Djougou. C'est ce qu'a indiqué ce samedi le comité des pêcheurs qui attribue cette situation à l'absence de mesures conséquentes pour une bonne réglementation de la pêche sur ces lacs. Selon eux, les filets à mailles saines qui leur permettaient de pêcher en moyenne 200 voire 300 kg de poissons par jour il y a environ 2 mois n'arrivent plus à dépasser 20 kg. Du coup, on observe une hausse des prix sur le marché. C'est ce que nous dit Ezekiel Mouzalia.
Selon plusieurs sources contactées à Chomia, située à 60 km de Bounia dans le territoire de Djougou, la baisse du poisson sur le lac Albert ces derniers temps ne répond plus aux besoins de plusieurs familles qui vivent des activités de pêche sur ces lacs. Les causes de cette baisse seraient, selon elles, liées au mauvais système de réglementation des pêches qui, estime-t-elle, fait disparaître une grande quantité de poissons sur le lac. D'après un membre du comité des pêcheurs, même avec l'usage du filet sain, il est devenu difficile de capturer même 20 kg de poissons par jour. Conséquence, le prix augmente sur les marchés. Le kilo de tilapia qui s'est vendu il y a 2 mois à 4 000 francs est passé à 6 000 francs congolais, voire 6 500 francs. Kazadi Mulumba.
Il y a diminution du poisson au lac Albert. Ça devient compliqué. Et ici au lac Albert, les gens vivent que de la pêche. Il n'y a pas moyen d'aller au chat. Vous voulez aller au chat, vous allez se rencontrer avec les Codeco. On ne donne pas le temps pour que les poissons puissent se reproduire.
Ce comité des pêcheurs souhaite que le gouvernement provincial instaure un système de pêche trimestriel suivi d'un repos biologique de la même durée afin d'accorder le temps aux nombreuses espèces des poissons sur ces lacs de se reproduire. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et ici à Kinshasa, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST demande au gouvernement de libérer tous les dossiers relatifs à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, entre autres le réajustement de la prime de gratuité des enseignants, la prime d'encadrement de la paie des agents et cadres des services centraux de l'EPST. Dans une déclaration à la presse hier vendredi, Godefroy Matondo, porte-parole de cette structure syndicale, a appelé entre autres tous les enseignants à reprendre le chemin de l'école après les vacances de Noël en attendant la réaction du gouvernement. Godefroy Matondo le dit à Paul Matindo.
Tous les dossiers relatifs à la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement sont injustement bloqués, à savoir réajustement de la prime de gratuité des enseignants du primaire sur toute l'étendue du territoire national, prime d'encadrement de la paie des agents et cadres des services centraux de l'EPST, prime pour fonction spéciale et d'itinérance allouée aux inspecteurs de l'EPST. Au regard de la mauvaise foi du gouvernement de la République en général, L'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST a décidé ce qui suit. Que les enseignants reprennent le cours ce lundi 9 janvier 2023. Demande au ministre des Finances de libérer sans délai tous les dossiers de l'EPST évoqués en ayant 48 heures à dater de ce vendredi 6 janvier 2023.
Actualité internationale.
L'armée russe a assuré ce samedi qu'elle avait l'intention de continuer d'observer jusqu'à la fin de la journée le cessez-le-feu unilatéral décrété par Vladimir Poutine à l'occasion du Noël orthodoxe malgré des tirs d'artillerie ukrainiens. Malgré les tirs d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur les zones peuplées et les positions russes, l'application du régime de cessez-le-feu annoncé sera poursuivie par les troupes russes jusqu'à 0 heure, soit 21 heures temps universel, a indiqué le ministre russe de la Défense dans son rapport quotidien, rapporte l'AFP.
L'invité.
Il s'agit du coordonnateur provincial de la médecine traditionnelle et plantes médicinales au Maniema. Monsieur Kalombola Kapuli-Floribert nous parle de la perception des tradis praticiens de la vaccination. Après plusieurs jours de tergiversation, les tradis praticiens du Maniema ont accepté d'adhérer au processus de vaccination après une séance de sensibilisation organisée par la Division provinciale de la santé avec l'appui de l'OMS. Kalombola Kapuli-Floribert s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Kalombola Kapuli-Floribert, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Quelle perception ont les tradis praticiens de la vaccination?
La vaccination chez les tradis praticiens n'est pas acceptée. Les tradis praticiens voient la vaccination d'un autre œil. C'est quelque chose venu des blancs, dont les blancs sont en train de monter des coups contre les Africains, les Noirs, pour leur priver la faculté de procréation, pour leur priver la puissance sexuelle, et ainsi diminuer les taux de natalité dans le pays, des choses comme ça. Et pour d'autres, la vaccination est un mécanisme utilisé pour éliminer les Noirs. Ils ne sont pas favorables à la vaccination parce qu'ils ont leurs recettes, médicaments, les ingrédients qu'ils utilisent pour faire face à des maladies, à des invalidités.
Pourquoi aujourd'hui avez-vous accepté de vous faire vacciner?
D'abord, la coordination provinciale de médecine traditionnelle dont je suis l'acteur, avec le partenaire OMS, j'ai été compris, nous avons réussi à amener les tradis praticiens ensemble et préparer le coordonnateur du PEV et les autres intervenants et moi-même pour donner la clarté, l'importance de la vaccination. Et alors, quelles sont les conséquences de ne pas se faire vacciner? Après avoir étalé toute sévérité et de manière convaincante et donner aussi des leçons sur la manière dont les tradis praticiens qui sont les acteurs de la médecine traditionnelle, comment sont-ils appelés à collaborer avec les prestataires de la médecine traditionnelle pour former ce que l'on appelle la couverture sanitaire universelle et leur dire que l'union fait la force au lieu d'avancer en ordre dispersé. Avec tous ces arguments, les tradis praticiens sont arrivés à comprendre que la vaccination doit être soutenue.
Et quel engagement prenez-vous aujourd'hui après avoir participé à cette séance de sensibilisation?
L'engagement, d'abord, plusieurs d'entre eux se sont fait vacciner sur place. Et alors, avec la résolution d'aller conscientiser les membres de leur famille, les voisins, les connaissances et les autres malades qu'ils prennent à charge, leur montrer l'importance de se faire vacciner. C'est ça la détermination, c'est ça la résolution.
Quel message adressez-vous aux autres qui ne sont pas ici par rapport à la vaccination?
Aux tradis praticiens dans la province du Maniema en général, je leur adresse le message d'avoir un point de vue équilibré et positif et comprendre que la vaccination est en quelque sorte semblable aux antimacistes que nous soignons aux gens et antipoisons que nous donnons aux gens. Ça, c'est en quelque sorte quelque chose comme ça. Ça n'a pas un mal. Nous pouvons accepter d'être vaccinés. C'est pour notre bénéfice et pour notre intérêt. Je recommande aux tradis praticiens qui me suivent d'avoir un point de vue équilibré par rapport aux activités de vaccination et à se faire vacciner eux-mêmes et leurs dépendants.
Et si jamais vous rencontrez des résistances dans le milieu des tradis praticiens, quelle va être votre attitude pour faire adhérer les autres?
En tout cas, le mécanisme le mieux indiqué que j'ai trouvé serait de pouvoir organiser des ateliers de formation comme c'était fait aujourd'hui. Tout cela amènera d'abord les tradis praticiens ensemble et cela va aussi nous donner l'occasion d'inviter les les différents intervenants de la santé, plus moi-même, nous allons les former, les informer, les éduquer sur la matière pour arracher les résultats tels que vous venez d'observer, madame la journaliste.
Êtes-vous organisée dans une corporation pour faire passer les messages de la vaccination?
Effectivement, madame. La médecine traditionnelle, sa coordination émane du programme national pour la promotion de la médecine traditionnelle et des plantes médicinales au niveau central à Kinshasa. Et c'est le programme à Kinshasa qui a sa coordination de médecine traditionnelle en province. Et puis la coordination elle-même a les différentes associations de tradis praticiens qui interviennent dans différents domaines d'intervention. Et il y a aussi un autre organisme qui vient d'être implanté, la CEPAT, qui veut dire la Confédération provinciale des associations de tradis praticiens. Avec ces regroupements, il y a moyen de faire entendre le message par rapport à la vaccination et amener la communauté des tradis praticiens à se faire vacciner contre la COVID-19 et contre les autres pathologies qui sont évitables par la vaccination.
Merci.
Merci, madame la journaliste.
Fidèles auditeurs, voilà qui met fin à ce radio-journal coordonné par Pierrot Elamenji et supervisé par Richard Junior Kamunga. Alain Goy et Jean-Noël Mokundo ont assuré la mise en onde et moi, c'est grâce à Mzati Massanzi qui vous l'ai présenté. Vous pouvez les réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net. Merci d'avoir été des nôtres et excellent week-end chez vous.